Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans Appel d'air, au programme des livres, des chansons, pour tous un thème en commun. Aujourd'hui, nous allons parler d'espions et d'agents secrets. Le plus connu d'entre eux, bien sûr, c'est James Bond. Et on commence tout de suite avec ce morceau de 1964 de Shirley Bassey, Goldfinger.
Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
a été incarné au cinéma par de nombreux comédiens, et notamment par le britannique David Niven dans Casino Royale en 1967. Le fameux comédien anglais s'est illustré dans de nombreux autres films, La Panthère Rose, Le Tour du Monde en 80 jours, Les Canons de Navarone, Le Cerveau et bien d'autres. Et justement, c'est lui le personnage principal de la bande dessinée dont je vais vous parler maintenant, Opération Copperhead de Jean Aramba. Opération Copperhead, c'est l'histoire d'une opération qui a vraiment existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'une idée de Churchill lui-même, faire croire aux Allemands que se préparait un débarquement en Afrique du Nord. Pour ce faire, l'idée était de recourir à un sosie du général Montgomery, le fameux général que tout le monde surnommait Monty, et son sosie devait se faire prendre en photo par des journalistes dans la région. Le comédien David Niven va participer à cette opération. À l'époque, il était déjà une star, il commençait à faire carrière aux États-Unis et il était revenu sous les drapeaux britanniques en 1939. En 1943, il est lieutenant-colonel, chargé de tourner un film de propagande avec un autre comédien et scénariste, Peter Ustinov. Ustinov est alors âgé de seulement 21 ans. Il est soldat de seconde classe, mais il n'attendait qu'une chose, être affecté au service cinématographique. Parce que comme il le confie lors de leur première rencontre, « J'aime l'armée, sauf dans les domaines suivants, la discipline, l'uniforme, la hiérarchie. Et la violence n'est pas mon fort. » Les deux hommes vont vite s'entendre, et vont donc finalement s'atteler à la mission Copperhead. Ils ont 3 semaines pour trouver et former le sosie du général. Ils trouvent la perle rare en la personne du lieutenant Clifton James, un comédien amateur, plutôt médiocre d'ailleurs, et qui, à quelques détails près, est la copie conforme du célèbre Monty. La formation du sosie ne va pas être de tout repos, car Clifton manque de confiance en lui, et il a un faible pour la boisson, comme le dit l'un des personnages, il a le gosier en pente. Niven et Ustinov vont vivre bien des péripéties à cause de leur recrue qui a tendance à disparaître pour écumer les bars et éventuellement les maisons closes. Les choses vont se compliquer un peu plus lorsque David Niven tombe sous le charme de Vera, une chanteuse au musical Le Palladium, chanteuse qui cache un passé trouble, fait l'objet d'une surveillance par le MI5, serait-elle une espionne ? Jean Aramba s'inspire des autobiographies de Niven, Ustinov et Clifton James. On retrouve d'ailleurs des extraits de ces 3 autobiographies dans la bande dessinée, mais l'auteur laisse libre cours à son imagination, comme il l'indique en introduction. Dans les pages qui suivent, tout n'est pas entièrement vrai, mais tout n'est pas entièrement faux. Avec un trait très simple et vif, il nous raconte une histoire à l'humour très britannique, avec des répliques qui font mouche, le tout sur un rythme enlevé, avec une succession de rebondissements. On ne s'ennuie pas une seule seconde avec cette bande dessinée de Jean Aramba, publiée aux éditions d'Argo.
But he's the last of the secret agents, and he's my man. But he's the last of the secret agents, and he's my man.
One time. Get it.
Nous venons d'écouter deux titres de l'année 1966. C'était d'abord Nancy Sinatra avec The Last of the Secret Agent et puis Rex Garvin and the Mighty Cravers avec leur titre Suck It to Em, JB. Vous aurez pu le constater, les paroles n'étaient pas très compliquées puisqu'il s'agissait des titres de différents James Bond. Nous partons maintenant vers l'Angleterre avec Expo 58 de Jonathan Coe. Dans ce roman, le héros, Thomas Foley, a 32 ans. Il vit à Londres. Il est rédacteur au sein du bureau central d'information et chargé de rédiger des brochures sur la santé et la sécurité. Il est marié, jeune père de famille, leur enfant a tout juste un an. Il mène une vie, ce qu'il appelle lui-même une vie pépère, dans un pavillon de banlieue avec petit jardin, voisin un petit peu envahissant. Son quotidien, un petit peu morne, va changer le jour où ses supérieurs lui proposent une mission. Se rendre pendant 6 mois à Bruxelles pour l'exposition universelle. À côté du pavillon britannique se trouve une réplique d'un pub, le Britannia, tenu par une entreprise privée. Et on aimerait bien que quelqu'un de la maison soit là pour surveiller, pour s'assurer que tout se passe bien. Après une courte hésitation, Thomas accepte et part pour la Belgique. En cette année 1958, il va faire plusieurs rencontres. Tout d'abord, la jeune et jolie hôtesse belge Anneke, à laquelle bizarrement il va oublier de préciser qu'il est marié et père de famille. Il va également rencontrer son voisin de chambre, Tony, un conseiller scientifique britannique qui en fait supervise une réplique du Zeta. Le Zeta est une machine a priori innovante en matière de production d'énergie nucléaire. Thomas va également rencontrer son homologue russe, Andrei Chersky, chargé de rédiger un magazine pendant toute la durée de l'exposition. Andrei est très intéressé par le Zeta et pose beaucoup de questions à Tony et Thomas. Si l'objectif de l'exposition est de rapprocher les peuples, cela ne semble pas gagné. N'oublions pas qu'on est en pleine guerre froide. D'ailleurs, les Belges sont un petit peu facétieux et ont positionné les pavillons américains et soviétiques côte à côte. Thomas réalise bien vite que tout le monde surveille tout le monde et se retrouve bien malgré lui plongé dans un monde d'espions. Pour notre grand plaisir, Jonathan Coe se livre à une parodie de romans d'espionnage. Il multiplie les références à l'univers des services secrets et les tourne en dérision. Vous allez ainsi retrouver à plusieurs reprises un duo comique, Monsieur Radforn et Wayne, deux agents toujours en imper beige et chapeau noir, qui terminent les phrases l'un de l'autre, des espèces de Dupont et Dupont version anglaise en fait. Ils ponctuent chacune de leurs rencontres avec Thomas d'un « ça reste entre nous ». Un jour, un inconnu téléphone à Thomas, lui donne rendez-vous dans un parc. Il est censé tenir l'exemplaire d'un journal précis ouvert à la page 27. Pas de chance, ce jour-là, le numéro ne compte que 24 pages. Il y a également dans ce roman quelques allusions à James Bond et à son auteur, Ian Fleming. Thomas, pendant son séjour, est justement en train de lire « Bon baiser de Russie » et lorsque les choses commencent à le dépasser, il se demande « qu'aurait fait James Bond en pareilles circonstances ?» Comme dans les vrais romans d'espionnage, le suspense est au rendez-vous le jour où Tony disparaît sans prévenir personne. Expo 58 est un roman jubilatoire qui mélange avec réussite intrigue et humour. Si vous aimez l'humour britannique, le second degré, n'hésitez pas, ce roman est fait pour vous.
Yes. nothing to do with me. I'm a baby loves a cigarette agent. I'm a baby loves a cigarette agent. Oh, I'm a baby loves a cigarette
Expo 58, nous allons retrouver un roman d'un auteur anglais. Cette fois, il s'agit de Ian McEwan. Encore un roman paru aux éditions Gallimard. J'ai pas fait exprès. Le roman s'intitule Opération Sweet Tooth. Nous sommes au début des années 70 et Serena Frum est une jeune Anglaise de 21 ans, issue d'une famille aisée, un père évêque, une mère femme au foyer qui la pousse à ne pas faire comme elle, à ne pas gâcher sa vie. C'est décidé, elle fera des études de maths. En fait, Serena aurait préféré faire des études de littérature, c'est une grande lectrice qui peut lire jusqu'à 3 romans par semaine. À l'université de Cambridge, elle fait la connaissance d'un professeur de 30 ans plus âgé qu'elle, qui s'appelle Tony Canning. Tony va devenir son amant, ils passeront l'été ensemble dans sa maison de campagne. Il a des contacts au MI5, les services secrets britanniques chargés de la sécurité intérieure, et il s'est mis en tête de lui faire décrocher un poste au sein de l'agence. Malgré une rupture brutale à la fin de l'été, Serena passe quand même l'entretien que Tony lui avait obtenu et est engagée. Mais ses rêves d'aventure vont vite être confrontés à la réalité. Et oui, n'oublions pas qu'on est en 1972, Serena est une femme, Elle est recrutée en tant que sous-officier stagiaire, c'est-à-dire qu'elle est secrétaire. Avec sa collègue Shirley, elle se voit confier un jour, enfin, une mission à l'extérieur. Là encore, Serena va vite déchanter, il s'agit de faire le ménage dans une planque. Dans la planque, on trouve un matelas taché de sang et un papier avec des annotations qui lui font croire que Tony a peut-être été dans cette planque, et si c'était son sang sur le matelas. Serena a aussi l'impression qu'on a fouillé sa chambre, son marque-page n'est plus au même endroit. Et un soir, alors qu'elles sont au pub, Shirley lui confie qu'elles sont surveillées. Serena fait-elle preuve d'une imagination débordante ou a-t-elle raison? Son collègue Max la prévient. Dans ce métier, la frontière entre ce que les gens imaginent et la réalité peut devenir extrêmement floue. Au bout de plusieurs mois, on confie enfin à Serena une vraie mission. Il s'agit de participer à l'opération Sweet Tooth. L'idée est de recruter un écrivain appelé Thomas Haley. Le MI5 souhaite en effet soutenir de façon cachée, de façon détournée, des écrivains dont les vues politiques rejoignent celles du Royaume-Uni. En résumé, il s'agit de recruter des écrivains qui ne sont pas marxistes. Il s'agira de faire croire à l'homme qu'une fondation s'intéresse à lui et lui propose une bourse pour soutenir son travail. Serena tombe sous le charme de Thomas, ils deviennent bientôt amants, et lorsqu'il accepte l'argent de la soi-disant fondation et qu'il commence à lui faire lire ses nouveaux écrits, notre employée du MI5 se retrouve prise au piège et ne sait plus si elle doit lui avouer la vérité. Dans ce roman, Ian McEwan recrée à merveille l'Angleterre du début des années 70, avec son contexte de guerre froide, d'attentats perpétrés par l'IRA, la crise énergétique de 1973, mais il décrit aussi tout ce qui fait partie du quotidien de ces années-là, notamment la mode, la musique qu'on écoute à l'époque. Il joue aussi, bien sûr, avec l'univers des services secrets. Finalement, on se rend compte que l'opération Sweet Tooth n'est pas un pur roman d'espionnage, mais plutôt un roman ponctué de réflexions sur la littérature et les écrivains, notamment sur les rapports entre lecteur et auteur. Lorsque Serena lit les nouvelles de Tom, avant de le connaître, elle est plutôt perplexe. Qui est réellement l'auteur? Quelle part de lui-même laisse-t-il paraître dans ses écrits? Et cette question, elle se la posera encore plus une fois qu'ils seront devenus amants. Opération Sweet Tooth traite des rapports entre l'imagination et la fiction. Il y a aussi beaucoup question de mensonges et de manipulation. Et quoi de mieux que le monde de l'espionnage pour aborder tous ces sujets? Cette édition d'Appel d'air consacrée aux espions et finalement aussi beaucoup consacrée à l'humour britannique touche à sa fin. On se quitte avec un clin d'œil à un autre agent secret un peu particulier, Austin Powers, avec le morceau de la bande originale de Quincy Jones, le titre Soul Bossa Nova, un morceau de 1962. Merci d'avoir suivi l'émission, on se retrouve dans une prochaine édition consacrée au Canada.